Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Depuis que cette émission existe, on se demande jour après jour ce que c'est que cette fameuse pop culture. Et je trouve assez exemplaire, pour ne pas dire admirable, cet éternel questionnement, cette interrogation constante où l'herméneutique profane le dispute à une phénoménologie transcendantale sans jamais sombrer dans une casuistique gratuite. Une émission de cuisine se demande-t-elle ce que c'est que la nourriture? Non, elle l'accommode. Et c'est la différence entre une émission de cuisine et popopop, même si les deux ont en commun d'être nourrissantes. Oui, on se pose quotidiennement la question. Et on interroge nos invités sur la nature de la pop culture. Mais la question pourrait aussi bien être, c'est qui la pop culture? Et là, une des premières réponses qui s'imposerait serait évidemment celui que nous recevons aujourd'hui, Robert Rodriguez. Ce monsieur Rodriguez-là est un cinéaste qui a commencé avec des bouts de ficelle. Souvenez-vous de son premier film, El Mariachi, pour se retrouver 26 ans plus tard à la tête d'une des plus grosses productions imaginables. Et ça, c'est Alita, Battle Angel. Son nouvel opus archibarré, une extravagance cinématographique futuriste qui réunit tous les ingrédients de la pop culture que nous épluchons. Et c'est notre deuxième point commun avec une émission de cuisine. Enfin bref, Robert Rodriguez, c'est la pop culture et c'est notre invité d'aujourd'hui.
France Inter. Pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, Charline Roux. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Charline Roux. Nous sommes donc allés à la rencontre de ce spécimen unique que je vais rapidement de vous décrire, Robert Rodriguez. Rencontre dans quelques instants. Au menu également de Pop, votre dose hebdomadaire de n'importe quoi.
C'est trop le délire, ici on s'éclate comme des bêtes.
Et le coup de cœur ciné de la semaine de notre chroniqueur Ronan Crowe pour le film La Favorite. Alors, spoiler, j'ai détesté et je vais le mettre dans le mur. Ce sera tout à l'heure. Mais avant ça, quand on reçoit Robert Rodriguez dans Pop, eh bien, on lui pose évidemment une question. Une question qui peut faire encore plus mal que de se prendre le mur que va se prendre Ronan Crowe en fin d'émission. Oh, et cette question, c'est... Bah, pour vous, c'est quoi la pop culture ?
Pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Je me rappelle avoir fait un film dans, où l'un des personnages joue de la musique, joue de la musique de Luke Rake, qui est, Ling Ray, qui est le créateur du rock. Et il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un groupe pop? Et la réponse est non, et c'est la raison pour laquelle il a du talent. C'est-à-dire que on est apprécié que si on n'est pas bon. Enfin bon, c'était un peu la définition négative de la culture pop. Mais en fait, il y a des choses qu'on peut détester en raison de leur popularité, mais inversement, il y a des choses qui jouissent d'une grande popularité, donc pop, parce qu'ils ont une grande qualité. Avatar, maintenant, fait partie de la pop culture, mais au départ, c'était un film qui essayait de faire quelque chose de différent, de dire quelque chose de différent, et sa popularité l'a intégré dans la pop culture. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif d'être. C'est presque quelque chose de bien. Enfin, ça dépend. Mais dans l'ensemble, la culture pop, la pop culture, c'est quelque chose qu'il faut connaître en tant qu'artiste. C'est un phénomène intéressant. Mais je crois que c'est presque magique à mes yeux.
Robert Rodriguez est dans Pop, et réciproquement. Et on continue notre discussion pop avec le réalisateur juste après Exit, le dernier morceau du groupe Falls.
Down.
Exit, le tout nouveau morceau du groupe britannique Falls. Et j'en profite pour vous annoncer que Yanis Philippakis, le chanteur du groupe, sera dans Pop 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 très prochainement.
Chanteur de quel groupe ?
Falls.
Ah oui.
Vous écoutez donc Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec...
Rodriguez, père et fils.
Non, nous ne sommes pas avec un autre Rodriguez qui pèse un peu plus dans la pop culture que ces deux guignols. Mais de qui s'agit-il ? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, un pop portrait, bah c'est son portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
Aujourd'hui, nous recevons un homme qui fait des films avec du muscle, de la testostérone, sans en exclure les femmes dont il fait des héroïnes tellement badass que les Clooney, Trejo, Brolin, Duckhorn, Willis en ont les genoux qui claquent. Salma Hayek dans Desperado 1 et 2. Salma Hayek dans Une nuit en enfer. Salma Hayek dans The Faculty. Carla Gugino dans Spy Kids 1, 2 et 3. Rosario Dawson, Brittany Murphy et Jessica Alba et son célèbre lasso dans Sin City. Rose McGowan dans Planète Terreur. Michelle Rodriguez dans Machete. Robert Rodriguez est donc le pourvoyeur numéro un de modèles féminins qui plaisent aux bonhommes, tout en inspirant les ladies. Et ce n'est pas sa nouvelle héroïne qui va le faire déroger à la règle. Alita est faite de ce bois-là, enfin de ce bois, le matériau super solide extraterrestre. Enfin bon, bref. Robert Rodriguez va nous expliquer tout ça dans un instant.
Merci Charline. Continuons l'exploration de la planète pop du réalisateur. Nous lui avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. C'est l'heure de sa liste. Hop. Est-ce que vous avez un film de référence ?
Alors, un des films que je préfère, parce qu'il a eu un effet extrêmement profond sur moi, ça s'appelait New York 1997 de John Carpenter. J'avais 12 ou 13 ans, je me rappelle. Et dans ce film, New York est une prison et il y a le président qui se trouve dans l'Arkansas et c'est les prisonniers qui doivent les libérer. Alors, je sais, est-ce qu'on peut faire un film comme ça, dire que New York est devenue une prison et le faire ? Mais John Carpenter a fait le film, il y a en plus la bande son géniale, je me suis dit, mais c'est génial ça ! C'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma, pas seulement de réaliser, mais également écrire la musique et tout ça, de faire tout, parce que c'est sympa, et de créer des univers imaginaires. Et c'est un peu New York 1997 qui m'a donné l'autorisation, en quelque sorte, d'imaginer ce genre de carrière où je peux créer des choses de toutes pièces. Donc ça, c'est le film qui a changé ma vie, qui a changé mon parcours. En tout cas. Et puis ensuite Terminator, juste après. Quand j'ai vu ces personnages, c'est des réalisateurs qui avaient des tout petits budgets et qui faisaient des films bien au-delà des budgets. Faire des films de science-fiction avec des tout petits moyens. Jim et Carpenter pour ce film-là, ils m'ont vraiment inspiré.
Est-ce qu'il y a un livre qui a eu le même effet sur vous ?
Un livre qui a eu le même effet ? Alors, en fait, moi, je préfère les livres de non-fiction ou des livres où on apprend à... À mieux penser, par exemple, on ne s'intéresse pas à ce qu'on fait, mais la raison pour laquelle on le fait, pourquoi je mène cette vie, pourquoi je fais ça. C'est le genre de choses qu'on trouve dans des livres, disons, d'aide personnelle, en quelque sorte, qui vous aide à vivre. C'est ce livre-là qui me plaise. J'ai un livre. Un livre en particulier, « Why I Do », que je présente également à mes enfants. Je trouve ça, c'est un livre qui, pour moi, est une forme de référence quand même, qu'on peut lire dès l'âge de 8 ans.
Une chanson ?
Hotel California, des Eagles. Ça, c'est la toute première chanson que j'ai découverte quand j'étais gamin. Je me rappelle que mes parents avaient toutes sortes de disques et c'était le seul 45 tours qu'ils avaient, un petit disque qu'on entendait tout le temps à la radio. C'était en 1976, je devais avoir 8 ans. Je passais en boucle. Il y avait quelque chose dans cette chanson, ce mystère, ce côté mystérieux. C'est parce que c'était en note mineure. Et ça, c'est donc un style très hispanique. C'était peut-être pour ça. Toujours est-il que moi, quand j'écris la musique dans mes films, c'est toujours également en mode mineur, parce que j'étais influencé par cette chanson. Je me rends compte que cette chanson a une énorme influence sur moi, parce que c'est la première chose que j'ai entendue. Et au départ, je ne comprenais pas pourquoi elle était différente des autres, parce qu'en fait, c'était une influence latino, espagnole, enfin hispanique plutôt. une façon même de raconter des histoires. Et donc, vous trouverez ça dans tous mes films, dans toutes les bandes sonores, elles sont toujours en mode mineur.
Ok, et pour finir, une série télé ?
Favorite TV series.
Celle que je préfère.
Probably the X-Files.
I loved
Night Stalker when I was a kid.
J'aimais beaucoup Night Stalker quand j'étais gamin parce que ça, c'était, then, c'était un truc très, très effrayant.
The guy who created X-Files.
Mais celui qui a créé X-Files, d'ailleurs, aimait aussi cette série-là, Night Stalker. Également la Twilight Zone. La première série d'origine, là, je l'adore. Hein. Cette qualité un peu magique, cette façon de raconter des histoires avec des côtés rebondissements, la dimension sociale, tout en étant très divertissante. Ça, c'était ça touchait un peu à la science-fiction d'ailleurs, ça me plaisait bien.
X-Files, donc, comme pop choix de notre invité Robert Rodriguez. Passons des extraterrestres de Mulder et Scully à la pop australienne de Tame Impala avec ce morceau Elephant.
France Inter, Antoine Decaune, Pop.
Impala avec ce morceau Elephant dans Pop sur France Inter. Le réalisateur américain Robert Rodriguez nous a accordé une interview pour la sortie de son film Alita Battle Angel qui sort mercredi prochain. Mais avant mercredi, rencontre immédiatement avec l'intéressé. Ah oui, c'est vrai, comme le film se passe au 26e siècle, on ne peut pas y aller juste comme ça. Alors heureusement que j'ai garé ma DeLorean en double fil devant la maison de la radio. Robert Rodriguez, bonjour. C'est une drôle d'histoire qui vous amène aujourd'hui. On va parler d'un film inspiré d'un manga japonais, développé par un réalisateur américain et finalement signé par un réalisateur américain d'origine mexicaine. L'histoire du film elle-même est une aventure. Est-ce que vous pouvez nous la résumer rapidement ?
Yeah, the making of the movie itself
was already a great story. We hadn't made the
la production du film est en soi une aventure qui mérite d'être racontée.
Yes, it was, because I had known Jim Cameron,
je connaissais Jim Cameron depuis longtemps, hein, ça faisait 25 ans qu'on se connaissait, et le fait même like d'avoir Jim eu cette possibilité, parce que like Jim ne va pas vous écrire un scénario comme ça pour le confier à d'autres, enfin, c'était lui qui allait le réaliser au départ. Toujours est-il que s'il n'allait pas le faire lui, il préférait le laisser dans un tiroir que le confier à quelqu'un d'autre qui allait se planter. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes de son calibre. Mais il se trouve que je le connaissais depuis tellement longtemps. D'ailleurs, on avait essayé de travailler un peu ensemble, parce qu'on se connaît depuis 25 ans, donc. Et donc, là, je lui ai simplement demandé, je lui ai parlé du projet. Je ne voulais pas simplement me mêler de ça, j'étais fan, simplement. Je lui ai dit, alors, avec Alita, qu'est-ce qui se passe? Bon, il était en plein dans Avatar à l'époque. Il m'a dit, tu veux voir ce que je fais dessus en ce moment? Parce qu'il n'avait pas eu le temps de travailler dessus. C'était un très long scénario, il n'avait pas eu le temps de travailler le scénario. Il y avait beaucoup de travail artistique derrière. Et la première image, c'est cette image absolument incroyable de cette jeune fille avec des yeux immenses, des bras en porcelaine. Je me suis dit, waouh, ça c'est intéressant. Ça c'était quelque chose de complètement nouveau. Et c'était en 2005, je vous rappelle.
Alors,
et même aujourd'hui, ça paraît très, très nouveau parce que personne n'a rien fait de semblable à ce jour. Alors je lui ai dit, est-ce que je peux ramener le scénario chez moi? Je vais essayer de le réduire un peu. Gratuitement, hein, gratos. Il a dit, bon, vas-y. Parce que je ne savais même pas si je pouvais faire quelque chose avec. Enfin, réduire un scénario, le ramener à 60 pages sans qu'il se rende compte, ce n'était pas évident. Mais je savais que c'était un scénario, un projet qui lui tenait à cœur. Il fallait garder l'action, le spectacle, mais enlever ce qui n'était pas nécessaire. Garder les personnages, le cœur de l'histoire, parce que c'était ça qui comptait pour Jim Cameron. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces films marchent si bien. Hein, parce que le reste, ça compte pour, c'est secondaire, mais par contre, sur le plan émotionnel, ça doit le faire. Donc j'ai réduit le scénario. Il ne s'est pas rendu compte, il ne croyait pas que j'avais pu ramener ça à 60 pages. Il n'avait pas vu ce que j'avais enlevé, parce que je pensais à son esprit critique à lui, parce que moi, je suis tellement fan de lui depuis tellement longtemps, je sais ce qui compte pour lui. J'étais comme un étudiant de son œuvre et il a dit, allez, top, on le fait ensemble. Alors j'étais époustouflé et c'est là le début de l'histoire de ce film. Alors c'est un enseignant absolument formidable, un vrai mentor pour moi. Et c'était un challenge en même temps. Parce que mes propres films sont assez basiques par rapport à tout ça. Enfin, vous avez quelqu'un qui se balade avec un écran de guitare sur son épaule et qui lance un missile. C'est pas très crédible. Pour le public, ça le fait. Pas pour Jim. Jim va dire, mais attends, comment t'as pu balancer un missile avec cet écran de guitare? Enfin, bon, moi, il fallait que je change donc complètement d'approche dans ma propre façon de faire des films pour écrire le film dans le style dans lequel lui, il l'avait écrit au départ. Donc, il a eu justement donc un rôle de mentor parce qu'il a cette façon de faire des films qui paraissent incroyables et les rendre crédibles. Hein, de la science-fiction qu'on puisse croire de A jusqu'à Z, complètement crédible pour que le fantasme passe. Sinon, on n'y croit plus du tout. Hein. Donc, il y a un côté un petit peu... le caprice est à bannir. Hein. Et donc moi, qui suis fan de films capricieux, il a fallu que je fasse vraiment demi-tour sur ma propre façon de travailler, avec des vrais décors, travailler en extérieur, avec de véritables oranges, de véritables acteurs, pour que tout soit finalement crédible lorsque le produit est complet. Et puis à partir de là, alors effectivement, on peut se lancer dans l'aventure. Et puis quand on voit le film, et même quand Jim l'a vu, il y croit. Il a dit, c'est un film incroyable. Parce que justement, il est ancré dans une espèce de réalité. Mais si je n'avais pas eu un mentor comme lui, je n'y serais pas arrivé. C'est grâce à tous ces enseignements que j'ai pu y arriver. Tout ça pour vous dire quoi? Que je suis le réalisateur le plus chanceux du monde.
Mais alors justement, et précisément parce que vous étiez très fan du travail de Yukito Kishiro et de celui de James Cameron, est-ce qu'au moment où on vous a offert le projet, il n'y a pas eu une forme d'angoisse?
You know, it was less frightening.
Angoissé, non, parce que justement, tout le travail que Jim avait fait en amont, quand même, ça m'a aidé. Parce que au départ, on avait le manga, s'il m'a dit, bon, j'ai envie de faire ce film, mais j'ai pas le temps, débrouille-toi, il y a 30 volumes de manga. Là, j'aurais pas su par où commencer. Mais il se trouve que Jim avait fait un énorme travail en amont. Il était prêt à se lancer, pratiquement. Et il m'a donné donc son scénario qui, au départ, faisait
168 pages. Il fallait réduire à 120 pages, puis encore moins, avec des dizaines de notes sur le monde de ce manga, avec les personnages et tout ça. Donc, il avait préparé le terrain, et donc, du coup, c'était moins angoissant, parce que, justement, il m'avait un peu mâché la tâche. Et je lui dois énormément, ça c'est clair. Donc, bien sûr, j'ai réussi à faire quelque chose, mais je ne peux pas assumer, disons, la responsabilité de ce chef-d'œuvre.
C'est l'histoire d'Alita, une petite guerrière cyborg jetée à la case dans un monde futur et qui va revenir à la vie par la grâce d'un ingénieur altruiste, défoncer une collection de méchants et d'affreux et découvrir la Hammur. Tout un programme. Bande annonce.
C'est un monde sans pitié. Je vais te montrer quelque chose.
Ce corps... Je me sens reliée à lui, je peux pas l'expliquer. Vous en savez plus sur moi que vous ne le dites.
Il y a des choses qu'il vaut mieux oublier, Alita.
Non ! Je les découvrirai toute seule.
Elle menace l'ordre naturel des choses.
Alita, ils vont s'en prendre à toi.
Alors je vais devoir les affronter.
Robert Rodriguez, on se souvient de votre premier film, Mariachi, réalisé pour $7,000, avec pour décor un pâté de maison, je simplifie. 26 ans plus tard, vous voilà à la tête d'un projet pharaonique, un roller coaster en termes de narration, d'effets, d'invention visuelle. Est-ce que vous avez pris autant de plaisir à le fabriquer que le spectateur en prend à le regarder ?
It was very enjoyable making this movie.
Ah, j'ai eu énormément de plaisir à faire ce film, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait d'abord, comme je dis, on tournait en extérieur avec des vrais décors naturels. Alors, en fait, on a construit un décor avec une ville construite de toutes pièces. Et alors, on l'a augmenté numériquement, mais enfin, il y avait quand même des murs, des parois de 30 mètres de haut. C'était quand même... une vraie ville, un vrai décor qui ressemblait un peu justement à la petite ville d'El Mariachi que vous évoquiez avec ce petit pâté de maison. Alors, évidemment, quand on ajoute les effets spéciaux, évidemment, on va plus loin. Mais enfin, j'ai l'impression que la boucle est bouclée, qu'on revient un petit peu au décor de mon tout premier film, un petit budget. Mais bon, non, c'était super sympa de tourner parce que donc on avait un vrai décor, on tournait vraiment aussi en extérieur avec des vrais acteurs, donc tout paraissait très réel. Et donc, les acteurs avait de quoi s'inspirer. Et pourtant, on savait que la plus grosse star du film, c'était Alita, qui, elle, n'était pas là. Rosa, oui, l'actrice était là, mais pas le personnage. J'allais pas... Le personnage n'allait sortir que 2 ans plus tard, quand tout le travail en 3D serait, en image de synthèse, serait réalisé. Dans mes autres films, bon, on les filme, on les monte, et puis on peut les voir. Alors que là, c'est un peu différent comme démarche, parce qu'il y avait énormément de travail à faire sur elle, sur l'environnement, le décor, toutes les scènes de combat. Il y avait vraiment beaucoup de travail à faire. Et là, je me suis mis davantage au côté du public que du réalisateur, parce que dès qu'il y avait un effet visuel à réaliser, je trouvais ça remarquable. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'on a pu faire ça? Quand est-ce qu'on a filmé ce... Je me mettais constamment à la place du spectateur parce que j'en croyais pas mes yeux. Et là, au début, je me disais, comment se faisait-il que Jim faisait des films avec de plus en plus d'images de synthèse, moins comme Titanic ou Terminator 2? Il était lancé dans... il y avait énormément plus de techniques et je comprends maintenant pourquoi, parce que ces images, on ne peut les voir que dans ses rêves. C'est des images qu'on ne peut pas filmer. On crée des films qui vont jusqu'aux limites de l'imagination. Donc il a donc créé son propre système solaire, son propre système de planète, avec sa culture, avec même sa végétation, enfin, parce qu'il peut créer tout cela. Il s'en est donné les moyens d'aller au-delà même de l'imagination. Et maintenant, je comprends donc cette évolution et pourquoi il est difficile de revenir en arrière avec des films basiques. J'aime bien faire des films basiques néanmoins, mais je comprends l'intérêt de la chose maintenant. Si on veut vraiment faire des films dans ce genre, il faut s'investir avec cette technologie qui vous fait des effets absolument spectaculaires, parce que même en tant que réalisateur, que cinéaste, lorsqu'on est impressionné par ses propres films, imaginez l'effet que ça a sur le public. Donc pour moi, c'était vraiment une belle aventure. Et c'est ça qui était sympa. Très agréable à faire, mais vraiment très agréable à regarder également. Enfin, plus qu'agréable, je veux dire, c'est un super moment, et j'adore regarder ce film. À propos, je ne l'ai pas vu en entier, je ne l'ai pas encore vu, parce qu'on est encore en train de terminer quelques petites scènes, donc je n'ai pas vu l'ensemble encore, mais j'attends la première à Londres, et pour moi, j'aurai l'impression de le découvrir, et c'est tout ce que j'ai envie de faire, d'ailleurs, en tant que amateur de cinéma, c'est de voir ce genre de film sans Jim Cameron, et là, donc, je fais un film de Jim Cameron, ce rêve se réalise.
On vous conseille le film, hein, c'est vraiment très bien.
Maintenant que le film est terminé, vous direz que l'inspiration d'Alita, c'est purement le manga, c'est aussi le cinéma de James Cameron ou c'est aussi un film de Robert Rodriguez?
Oui, alors effectivement, le point de départ, c'était les mangas. Jim y a apporté toute une dimension émotionnelle. Et c'est remarquable de voir la dimension émotionnelle apportée par lui, parce qu'il fallait créer une histoire. Ils ont un environnement cinématographique qui dépasse le monde des mangas, qui parle pas simplement aux lecteurs de mangas, mais au monde entier. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les films de Jim sont si bien reçus à l'échelle mondiale. Parce que moi, si j'arrive à m'identifier, à Alita, une fille de 13 ans, alors le monde entier peut s'identifier également, parce que je voyais d'où elle venait, où elle allait. Et c'est, ça, c'est le travail de Jim, hein, de présenter cette fille. Elle est issue d'une espèce de décharge, on l'a reconstituée de toutes pièces. Et puis, sa vie lui revient en mémoire, peu à peu, et elle découvre que son environnement n'est pas si innocent que cela. Elle a des pouvoirs absolument incroyables et elle a la capacité d'utiliser ses pouvoirs de manière positive pour changer le monde. Donc ça, c'est le personnage du film auquel tout le monde peut s'identifier, en tout cas, on peut s'y reconnaître. Et puis en plus, il y a le père. Donc, moi, j'ai une fille du même âge, donc je pouvais m'identifier également au personnage de Ido. Donc, et ça, c'est la magie que Jim apporte, et j'aurais pas pu trouver ça simplement dans les mangas. Les personnages, certes, étaient là, mais pas toute cette ambiance, donc cette dimension émotionnelle. Donc moi, je marchais un peu sur des œufs. Il fallait quand même équilibrer le côté manga, mais tout ce que Jim avait apporté également, parce que il faut sortir de la page de bande dessinée pour faire quelque chose de vivant. Donc, bien sûr, on peut choisir Christophe et Rosa pour jouer des personnages, d'accord, mais il faut créer un monde dans lequel on est à l'aise. On sait que le monde de manga a réussi à dépasser sa dimension et devenir un vrai film. Alors, il y a des idées pour le faire, et ces idées, Jim les avait toutes. Il faut être à l'aise, bien sûr, avec le résultat pour pouvoir ensuite explorer cet univers. Et c'est ça qui est sympa, parce qu'on voit des nouvelles possibilités, et c'est ça qui est génial. Mais bon, ça se fait peu à peu, jour après jour, et on part au départ, évidemment, d'un scénario, évidemment l'œuvre de Kishiro, le travail de Jim. Rosa elle-même a une grande responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'on aurait pu prendre une actrice, disons, stoïque, ça aurait pu faire un personnage de guerrier, mais elle est pleine de vie. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est quelqu'un de formidable, Rosa. Elle est très, très motivée, mais très vivante. Et je me suis dit, si je peux la mettre là-dedans, les images de synthèse seront beaucoup plus riches. Hein, mes techniciens qui travaillent là-dessus auront beaucoup plus de matériel, pour ainsi dire. Ce sera un personnage beaucoup plus réaliste, beaucoup plus humain, plus qu'humain à la limite, un cyborg, quelqu'un d'attachant, mais à la fois rebelle, avec toutes sortes de qualités. Quelqu'un qui se soucie des autres, qui est très ouverte et qui, en même temps, on se rend compte que c'est une guerrière, qu'elle avait un passé de guerrière autrefois, jusqu'au moment où elle découvre ce nouveau monde. Son but dans la vie, c'est de faire le bien et elle ne va pas revenir en arrière. Maintenant, elle a retrouvé l'humanité et elle devient humaine elle-même.
Robert Rodriguez, il faut que je décrive à l'auditeur de Pop 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 le spectacle que j'ai sous les yeux. Je suis assis en face de vous, avec Charline. Vous êtes sur un canapé, à côté de vous, Robert, le traducteur. Et pendant que vous parlez, quelqu'un d'autre est en train de parler. J'ai l'impression d'avoir deux dingues dans un asile. Très, très étrange. Mais ça m'amène à la question suivante, qui est celle de la collaboration. Vous avez souvent travaillé en collaboration. On se souvient d'Une nuit en enfer avec Tarantino ou de Sin City avec Frank Miller, aujourd'hui donc James Cameron. Quels sont les avantages et les inconvénients de travailler avec des créateurs aussi puissants?
I love working with other artists.
Moi, j'adore travailler avec d'autres artistes. D'ailleurs, les acteurs eux-mêmes travaillent entre eux avec d'autres acteurs, alors que les réalisateurs rarement ont l'occasion de travailler avec leur père, avec d'autres réalisateurs. Alors, il y a une série qui s'appelle The Director's Chair aux États-Unis où j'interviewe justement des grands réalisateurs, parce que on est soi-même réalisateur, on est soi-même cinéaste, on a un dialogue différent que pour une interview classique, parce que là on pose des questions très très techniques, et puis il y a des dialogues super qui en sortent, parce que on a rarement l'occasion de côtoyer d'autres réalisateurs. En tant que réalisateur, on va pas voir le travail d'un autre, on va pas voir un autre réalisateur tourner un film, alors que les acteurs travaillent toujours ensemble. Et quand j'ai pu travailler avec Quentin Tarantino, c'était génial. Ou avec Frank Miller aussi, avec Sin City. C'était super d'avoir à ses côtés un autre réalisateur, parce que on porte tout le film sur ses épaules. Et là, on a un camarade qui soutient aussi le film. on se renvoie les idées les uns les autres. Si on ne sait pas quel choix, quelle idée choisir, on fait les deux et puis ensuite on choisit plus tard. Enfin bon. Mais ça, il n'y a pas de, disons, de chasse gardée. Hein. On peut travailler ensemble. On dit que les réalisateurs ont des gros égos, mais en fait, ils arrivent très bien à travailler ensemble. Alors, on n'est pas en train de tirer la couverture à soi. Et en fait, les réalisateurs essaient toujours de travailler ensemble. C'était le cas de Quentin, de Frank, de Jim. Hein, Jim dit, voilà, faisant ton propre film, moi je dis, non, non, je veux que ce soit ton film. Bon, c'est un échange de politesse. Non, non. Fais-le comme toi, tu veux le faire, et puis non, inversement, non, c'est moi qui vais le faire de ta façon. Bon. Mais ça, c'est très sympa, hein, donc de collaborer avec des gens comme ça. Mais si on se dit, voilà, il faudrait tourner cette scène de cette façon pour telle ou telle raison, Jim répond, bah non, non, fais ce que tu veux faire. Je dis, non, non, je ne vais pas faire ça, non, mais j'ai envie de suivre, parce que lui, il est plus intelligent que moi, lui, il arrive à voir ce que les autres ne voient pas. Et j'ai tendance à m'inspirer de lui. Je me rappelle, on travaillait au tout départ sur le visage du personnage, avec des yeux qui étaient vraiment absolument énormes. Et je me suis dit, bon, c'est intéressant, je ne sais pas si ça va le faire, je ne sais pas si Jim ne va pas trouver ça un peu excessif quand même. Mais je me rappelle que sur Avatar, les gens trouvaient que les personnages bleus, ça faisait bizarre, mais il n'a rien changé pour autant. Bon, et puis on s'est dit, bah non, ça le fait, pourquoi pas. Bon. Du moment que l'histoire porte ces personnages, ça le fait. Alors, on n'avait pas tout terminé, tous les décors, mais juste au moment de produire le film, il m'a dit, non, c'est pas que les yeux soient trop grands, ils sont peut-être même trop petits. Alors, attends, t'es sûr de ce que tu dis, alors? Tout le monde dit que les yeux sont trop grands, et puis lui, il me dit qu'ils sont trop petits. Non, 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 c'est pas la taille de l'œil qui compte, c'est l'iris et la pupille qui doivent être amplifiés. Alors je lui dis, mais attends, jusqu'où? Alors 30% de plus. 30% de plus, t'es sûr de ça? Oui, t'es sûr de ça. On aurait pu ajouter 18-20%, mais pas 30%. Mais si, alors j'ai demandé aux autres, est-ce qu'on peut faire ça? Les gens me disent, ouais, je sais pas, bon, on va essayer. Et puis sinon, on changera. Mais non, on a fait ce qu'il a dit, et ça a marché. Et on avait comparé les images, avant, après, les yeux, il a dit, voyez, il avait raison. Quand on compare les images, on voit qu'il est les yeux sont encore plus grands. Mais c'est ça, son génie à Jim. Il arrive à voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est pourquoi je lui fais confiance. Il a fait d'énormes films. Bon, Avatar, il savait ce qu'il faisait. Et là, c'est pareil. Pour ce personnage, il fallait que la taille des pupilles, de l'iris également, soit proportionnellement plus grande. Et on a tendance à les croire. En plus, ils ne sont pas là à vous forcer, à vous intimider, à vous dire non, c'est moi qui décide. Il me dit toujours non, non, fais ce que tu veux. Non, bon, voilà ma suggestion. Maintenant, j'ai tendance à écouter ses suggestions parce qu'il a plus d'expérience.
Pop break dans cette interview qui se passe dans le Turfu pour savoir ce qui s'est passé depuis ces dernières 24 heures en 2019 avec une Claire Chazal cryogénisée. C'est l'heure des Pop News.
De l'héritage au sens culturel du terme de Kurt Cobain, il sera question dans un livre à paraître et son titre est le suivant. Ou pour être tout à fait précise, Serving the Servant, sous-titré Remembering Kurt Cobain, un ouvrage signé Danny Goldberg qui fut manager du groupe entre 90 et 94. Dans le livre des entretiens jusqu'ici inédits avec Kurt Cobain, son entourage, sa famille, le livre sortira le 1er avril en VO et on l'espère rapidement dans la foulée en VF.
D'une idole à l'autre, laissez-moi vous annoncer la sortie aujourd'hui en DVD d'un film que nous avons beaucoup beaucoup aimé, Thunder Road.
My mother was an extremely charitable woman. She loved Bruce Springsteen. She used to sing Thunder Road to me when I was going to sleep. It starts out and there's a harmonica.
The court has testimony that you practiced reckless behavior at funerals.
I lost my daughter today! Stay down! Stop! You're in my
face! You fucking hit me!
You're fucking bitch! You ruined my life!
I never ruined your life!
You ruined my
life! That goddamn video! Who danced at a fucking funeral?
In my culture we do this, Edward!
What?
Oui, l'histoire de ce flic en pétage de plomb intense, c'est une merveille signée Jim Cummings, Thunder Road, ça sort aujourd'hui en DVD chez Blackout.
Un ex-skater pro et musicien engagé sort aujourd'hui un EP. Tommy Guerrero figure au panthéon du skate et dans le panthéon perso de Pedro Winter, notre patron de label préféré. Ça nous donne du coup 5 titres qui sortent sous la forme d'un EP chez Headbanger, 5 titres dont ce Dubtunes. L'EP de Tommy Guerrero et Trevor Jones, ça sort donc aujourd'hui.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaune.
Si, moi c'est moi.
Speedy Gonzalez.
Moi non, Robert Rodriguez.
Non, mais non.
La suite de
c'est
l'entretien.
Vous avez, j'ai l'impression que vous allez faire de la magie, ça ne marche pas du tout.
Ben la magie, c'est justement que l'entretien avec le réalisateur Robert Rodriguez va arriver juste après After Dark, un morceau du groupe de rock latino de Los Angeles, Tito and the Tarantula. After Dark, c'est un morceau signé Tito et Tarantula.
Vous en avez sous le chapeau, vous, non?
Ouf. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Robert Rodriguez dans Pop 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 Part 2. Oui, nous parlons anglais pour vous parler de son nouveau film Alita Battle Angel. C'est juste après mon...
Robert Rodriguez, vous êtes un habitué des héroïnes kick-ass, badass et autres vocabulaire fleuri. Qu'est-ce que celle-là a de particulier? Et est-ce que ça a une saveur particulière de mettre en scène ce genre d'héroïne en 2019?
Yeah, what's amazing about this character. She's
alors, sur ce personnage, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est c'est un rebelle, dure à cuire, mais en même temps pleine d'humanité. Alors, elle a plein de pouvoir, mais beaucoup de gentillesse en même temps. Et moi, je me suis identifié à ce personnage. Je crois que c'est un personnage quasiment universel. Mais c'était, alors vous parlez de 2019, c'est une histoire d'actualité, parce que bon, quand Jim a acquis les droits, c'était en 1999, c'était il y a 20 ans, et à l'époque, il y avait très très peu de films d'action de ce genre. Moi-même, dans ma famille, on était 10 enfants, hein, 5 garçons, 5 filles. Et tous de, bon, dans une famille hispanique, bon, j'adorais le cinéma, mais dans les films, je me disais, mais pourquoi il n'y a pas de personnages hispaniques, il n'y avait pas d'héroïnes? Moi, j'avais cinq sœurs qui étaient toutes des badass, kick-ass, justement. Et les premières bandes dessinées que j'ai lues, ben justement, c'était l'image même de ma famille. Je me rappelle. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai créé un personnage, mon personnage féminin s'était inspiré de ma petite sœur. Donc, et c'est elle qui a donné naissance au personnage de Form et puis le personnage féminin dans Spiket. Donc, j'avais toujours basé sur mes filles, mes sœurs qui étaient vraiment des badass elles-mêmes. Je me suis inspiré d'elles pour mes personnages. Toujours est-il que quand Jim a présenté ce film, film, mais avec ce personnage. Alors, il y avait une dimension visuelle importante, justement, cette badass, comme vous l'appelez si bien. Une cyborg, en plus, et Jim a toujours eu des personnages féminins très importants dans ses films. Mais quand j'ai lu le scénario, j'ai compris que, ça me rappelle ma propre fille, hein, qui devient elle-même un peu rebelle, et elle a envie de connaître ses pouvoirs. Et là, les gens autour d'elle lui disent qu'elle n'a aucun pouvoir, et puis ensuite, elle découvre que si, en réalité, elle a des pouvoirs, mais qu'est-ce qu'elle va en faire? Donc, je me suis dit que c'était, effectivement, pour 2009, un film tout à fait d'actualité. Quand j'ai lu le scénario, c'était en 2015, quand je l'ai amené au studio, ils ont dit, voilà, ça c'est en 2015, on m'a dit, il faut faire ce film. Et donc, même en 2005, c'était un film d'actualité. Il est encore plus d'actualité aujourd'hui parce que je crois que c'est un film hors du temps, en fait. Il nous faut toujours une histoire comme ça, intemporelle, à laquelle on peut constamment s'identifier. Et en fait, les beaux films mélangent la vérité et le spectacle. Avoir le spectacle par plaisir, mais c'est la vérité derrière qui vous attache au film. Et ça, je l'ai trouvé dans le scénario de Jim.
Le monde d'Alita, le nôtre, hein, d'ici 300 ans, c'est ce qui reste d'un conflit généralisé qui a éclaté avant que démarre l'histoire. Vous savez que nous vivons un moment charnière de notre civilisation, que tous les indicateurs nous disent que nous allons au-devant d'une catastrophe sans précédent. Est-ce que le monde d'Alita est pour vous un des scénarios possibles ?
Presque la même réponse à la question précédente. Déjà en 1999, ça paraissait d'actualité. Il y a eu le 11 septembre, deux ans après. C'est un film qui est déjà extrêmement révélateur de l'actualité. Il est probablement encore plus d'actualité aujourd'hui parce que, d'ailleurs, quelquefois, c'est assez effrayant de voir que les prophéties, les révélations du film se concrétisent quelques années plus tard. En 2005, on n'aurait pas pu faire le film comme on l'a fait maintenant. On n'aurait pas eu Rosa, par exemple. Elle n'était pas là à l'époque. Et les circonstances d'aujourd'hui rendre ce film encore plus plausible, encore plus réaliste, alors qu'il était dans les tiroirs depuis une vingtaine d'années. Donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jim voulait faire le film. Il s'est rendu compte qu'il y avait un aspect intemporel, extrêmement réel à ce film. C'est la raison pour laquelle il n'était pas pressé, parce qu'il savait que ce film serait toujours d'actualité.
Est-ce que vous avez déjà présenté le film au Japon ? Et comment est-ce que vous appréhendez la première là-bas, où les attentes sont forcément différentes et plus importantes que chez nous ?
Alors, on ne l'a pas encore présenté au Japon. On y va dans deux semaines à peu près. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je sais que John a présenté le film à Kishiro et il l'a adoré. Donc, ça, c'est quand même pour moi le plus grand soulagement de savoir qu'il s'est retrouvé dans ce monde. Il était très, très satisfait. Plus, il était impressionné et même un peu surpris de justement cette dimension émotionnelle, tout le cœur qu'on a mis dans ce film, hein, qui allait bien au-delà de ce que l'on trouve généralement dans ce genre de film, de science-fiction, généralement. C'est du spectacle, et puis ça s'arrête là. Quelqu'un qui se fait casser la gueule, point final. Alors que là, non, il y avait vraiment une dimension beaucoup plus profonde, et ça l'a beaucoup touché.
Évidemment, à la fin du film, et on ne va rien spoiler ici, la question qui se pose, c'est à quand le numéro 2 d'Alita ? Si celui-ci marche, est-ce que vous êtes prêt à vous engager sur la suite ?
Oh my gosh, well, I mean,
on n'est pas encore là. Il faut voir que ce film, ça s'appuie sur simplement deux livres de toute la saga. Donc il y a beaucoup, beaucoup de matériaux encore. Et d'ailleurs, même quand Jim a écrit toutes ces notes, je crois qu'il est 600 pages de notes, il a beaucoup puisé dans ce matériau. Alors, il faut savoir un peu ce qu'on va garder, ce qu'on va garder pour plus tard. Mais alors déjà, on se concentre sur ce film-là. J'invite tous les auditeurs à aller voir le film, et si ça marche, bien sûr, j'adorerais faire un deuxième film. Il y a tellement de monde à explorer. Maintenant, on a un personnage central auquel tout le monde s'identifie, que tout le monde veut suivre, parce qu'on arrive à voir le monde à travers ses yeux immenses, et vous emmène dans ce voyage incroyable.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Merci Robert Rodriguez. Alita Battle Angel, ça sort mercredi prochain. Et pendant ce temps-là, pendant que nous étions en train de papoter tranquillement, nous a rejoint Ronan Crowe. Bonjour Ronan Crowe.
Bonjour.
Bonjour Ronan.
Bonjour. Lady Ronan m'appelle maintenant.
Lady Ronan.
Ouais, Lady Ronan. Vous êtes Lady Antoine et Lady Charline,
ça
évidemment.
Il n'y a qu'à moi que ça va bien. Ronan.
Presque ça va mieux Antoine qu'à vous, Charline, j'ai l'impression.
Lady Antoine.
Ouais, Lady Antoine.
Ça va pas mal.
Pourquoi ?
C'est pas faux, je sais pas.
Mais pourquoi on parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un très bon film qui est sorti mercredi en salle. Ça s'appelle La Favorite et ça ressemble à ça.
Très chère reine, mais vous êtes folle. Allez m'offrir un palais. Ceci est une monstrueuse extravagance, Madame Morlaix. Nous sommes en guerre.
Nous avons gagné.
Oh, elle n'est pas finie, nous devons continuer.
Oh là là, ça a l'air comme ça, tout macaron, tout joli, tout charmant. Mais non, La Favorite, c'est plutôt ça.
Vous m'avez regardé. Regardez-moi. Comment osez-vous? Fermez les yeux. C'est parfois amusant d'être reine.
Rassurez-moi, c'est la version française.
Mais vous avez l'oreille, Antoine. Mais oui, toute une carrière
absolue.
Grâce à ça, j'ai l'impression.
Ce serait pas un film Antoine a l'oreille absolue.
C'est un film hystérique, mais c'est le favori aux Oscars. La Favorite de Yorgos Lanthimos est sortie mercredi en salle. Et c'est un peu mon film préféré du moment. J'ai adoré ce film.
Expliquez-nous pourquoi.
Ah, mais c'est un film merveilleux. Je vous sens chaque fois, Antoine de Côte. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'aimez pas ce film?
J'ai pas du tout.
Vous n'aimez pas ce film?
Pas du tout, mais convainquez-moi.
Eh ben, j'ai un jingle pour ça.
Allez-y. Alors, pourquoi est-ce un film si admirable?
Alors, c'est un film merveilleux de Yorgos Lanthimos. Il utilise, en fait, donc ça se passe sous l'Angleterre du XVIIIe siècle.
Tout en dessous, oui.
C'est exactement. Mm-hmm. C'est Anne d'Angleterre, la vraie Anne d'Angleterre, un peu folle, un peu cinglée, un peu...
Totalement tarée.
Exactement. Mm-hmm. Qui a une favorite qui s'appelle Lady Sarah. Mm-hmm. Et Lady Sarah, en fait, va voir arriver la jeune Abigail qui va vouloir lui prendre sa place. C'est It's All About Eve, mais au XVIIIe siècle. Mm-hmm. C'est méchant, c'est cruel, c'est drôle. Surtout, Yorgos Lanthimos est vraiment le roi du malaise. Je vous vois, Antoine, vous n'êtes pas d'accord.
Vous comparez ça à un film de Mankiewicz, donc.
Exactement, et même mieux un film de Kubrick, un film de Peter Greenaway.
Manquez pas d'air.
Mais vous n'avez pas le monopole du cinéma, monsieur de Cône.
Attendez, vous confondez cette mise en scène hystérique, quasi au grand angle, du début à la fin, avec cette image déformée. Tout est déformé dans le film, tous les sentiments sont déformés.
Mais justement, c'est ça que raconte Yorgos Lanthimos, c'est que les sentiments sont déformés.
Attendez, vous comparez ça à du Mankiewicz.
Mais je compare ça à
le maître de la rigueur.
Mais il n'y a pas plus rigoureux qu'Yorgos Lanthimos. Ses plans cadrés, son travail sur le fisheye.
C'est un film qui fait mal aux yeux, Ronan Crowe. C'est un film qui fait mal aux yeux.
Mais vous avez mal au cœur. La France a mal au cœur, Antoine de Côte.
Mais j'ai mal au cœur, ça me fait vomir. Oui, ça me fait vomir. Oui, absolument.
Mais justement, il est question de vomi dans La Favorite. Il est question de lapin. Il est question de.
Sans arrêt, tout le monde vomit, tout le monde dégueule, tout le monde se tripote.
Alors, quand c'est Kubrick, alors là, tout le monde est d'accord. Alors là, ça y est, quand c'est Barry Lyndon, tout le monde est d'accord. Quand c'est Peter Greenaway, mais il suffit que ce soit un peu pop, ça ne vous plaît plus, Antoine de
Côte. Mais c'est pas pop du tout. Ah, c'est ça l'idée que vous faites de la pop.
Mais oui, c'est ça.
Vous me désolez, Renan.
Retrouvez Antoine de Cône et Renan Crowe au Théâtre des Deux Ânes tous les soirs jusqu'à la fin du mois de février.
Effectivement. Bon, c'est un très très beau film. Ça s'appelle La Favorite de Yorgos Lanthimos. N'écoutez pas le méchant Antoine de Cône. C'est génial. Moi, c'est le favori.
Alors, moi, j'avoue, de vous entendre vous empailler tous les deux, ça me donne super envie d'aller voir le film.
Nous
empailler. Que je n'ai pas vu.
Et on
nous
empailler.
C'est un film vous empailler.
Empaillons-nous Folleville.
Et normalement, on fait ça en privé avec Antoine. Ça s'appelle La Favorite. C'est avec Rachel Weisz et Emma Stone, qui est formidable, mais surtout celle qui va remporter l'Oscar de la meilleure actrice et qui va vous désavouer en public lors de sa récompense. Mm-hmm. C'est Olivia Colman qui joue la reine. Elle
si
aura
c'est
l'Oscar.
Si Gaga, vous êtes tellement mal, Renan Crowe.
Si c'est Gaga, c'est ma pote, elle viendra à l'émission. Bref, ça s'appelle La Favorite. Allez-y, c'est en salle depuis mercredi, c'est formidable. Et envoyez des lettres à Antoine de Cône pour lui dire qu'il n'a aucun goût.
N'y allez surtout pas, c'est une merde. Ah, pardon, oui. Ah, pardon, mais oui, mais attendez, mais quelle heure est-il? Mais on approche de la fin de l'émission. C'est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher, ben non, pas le dernier vinyle, c'est le grand n'importe quoi. On est vendredi, et j'y vais.
Oh, je le crois pas. Un overboard dans ma cave, comme dans Retour vers le futur. Oh, mais je peux aller chercher le magnéto du grand n'importe quoi avec. Allez.
C'est trop le délire ici, on s'éclate comme des bêtes. Y'a une ambiance de malade.
Youpi, youpi.
Youpi.
Après des années de travail, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons enfin réussi à croiser un chien avec un chat. Le chat-chien. Le seul problème, c'est qu'il passe son temps à se courir après.
N'importe quoi, n'importe quoi.
En bon sens, mais ce slip est trop petit.
Il me sert. Il me sert beaucoup. Comment ?
Papichou, raconte-nous une histoire.
Ah oui,
Papichou, raconte-nous une histoire.
C'est 15 balles.
Merci Alexandre Verret, le grand n'importe quoi, c'est chaque vendredi dans Pop Pop Pop. Comme j'ai réussi à stabiliser mon overboard, je peux lancer d'ici le dernier vinyle de l'émission. Tiens, petit clin d'œil mexicain pour Robert Rodriguez, Mexico, Luis Mariano.
On a chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend qu'elle est norvégienne, fille du Nord, on le sent chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout dans le soleil de Mexico. On devient fou au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Les femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour.
Mexico, Mexico,
Mexico, Mexico.
Luis Mariano pour terminer ce pop-pop-pop du jour. Merci Luis Mariano. Merci aussi à Robert Rodriguez donc pour Alita Battle Angel qui sort mercredi prochain à ne pas rater. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Alexandre Chenet, Aurélien Esvan notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Alice Delcourt notre stagiaire. Lundi on se retrouve pour un nouveau numéro de Pop Pop Pop, mais avant lundi si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr, si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeval à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos pop 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 sur YouTube, abonnez-vous à notre cast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.